C'est lundi soir, 22 juillet, et nous poursuivons notre étude du livre des Proverbes en y cherchant les enseignements du Dieu vivant. Comment découvrir et contempler le visage de Jésus dans le livre des Proverbes. Ce soir, nous avons le chapitre 20 et le chapitre 21 à considérer. 61 versets, nous demandons à Dieu de pouvoir dire juste ce qui est nécessaire et que sa parole soit illuminée par la puissance de son esprit et pénètre vraiment nos cœurs. Dieu notre Père, une fois de plus, nous sommes devant toi pour terminer cette journée. Par l'étude de ta parole, nous te demandons de nous renouveler, de nous oindre d'une huile fraîche, de donner aussi la puissance d'écoute à chaque cœur et que nous puissions enregistrer vraiment jusqu'au plus profond de nos entrailles les vérités que tu veux nous rappeler. Ô Dieu, forme nos pensées et à nouveau, intensifie notre intérêt et notre amour pour la personne de Jésus qui seul demeure. Amen. Nous faisons donc la lecture de ce chapitre 20e que je vous demande de suivre dans vos Bibles si cela est possible. En vous souvenant de ces quelques règles que nous vous avons données et en essayant déjà de les appliquer à ces textes et de retenir la parole qui vous arrête et qui semble vraiment vous concerner ce soir. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion, celui qui l'irrite contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait utiliser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis maître de mon péché? Deux sortes de poids, deux sortes d'effets, l'effet c'est une mesure de ce temps-là, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les appelle l'un et l'autre, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de faim. Mauvais, mauvais, dit la sœur. Et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche et rempli de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, c'est la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue se teindra au milieu des ténèbres. Un héritage rondement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. L'Éternel a en abomination deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme, peut-il comprendre sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère des engagements, un engagement sacré, et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu, un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité, la vérité, gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Nous allons considérer avec l'aide du Seigneur ce chapitre 20 et nous essayerons ensuite d'aborder le chapitre 21. Nous reprenons les versets, je ne sais pas quel est le verset qui vous a arrêté ce soir ou qui a parlé à votre cœur. Le vin est moqueur et les boissons fortes tumultueuses. Vous aurez remarqué que le vin ici est personnifié. On devrait lire littéralement, le vin est un moqueur. Qu'est-ce que cela veut dire? En abusant du vin, on devient moqueur. Avec les boissons fortes, qu'est-ce qui se produit? On n'est plus maître de nos actions ni de nos parents. Et il est dit que quiconque, et pas, il n'y a pas, c'est tout, c'est n'importe qui, quiconque en fait excès, ou quiconque qui égare, selon une autre traduction, bien, il n'est pas ça. Et dans la version littérale, eh bien, quiconque qui égare, c'est en quelque sorte la démarche, je voudrais traduire, la démarche d'un homme ivre. On voit déjà l'homme qui a bu trop de vin. On le voit dans sa démarche. Le vin est moqueur. Les boissons fortes, tumultueuses, eh bien, ne nous y aideront pas. Le vin, pourtant, n'est pas interdit. Il est, dans l'Écriture, le symbole de la joie. Mais, en toute chose, il ne faut pas faire d'excès. Il n'y a pas de difficulté dans ce verset. Maintenant, vous aurez remarqué que le roi est cité quatre fois, au verset 2, au verset 8, au verset 26 et au verset 26e. Nous avons déjà vu au chapitre 19e, verset 12, la mention du roi. Il était parlé de la colère du roi. Ici, il est parlé de la terreur du roi. Un peu plus loin dans ce chapitre, du regard du roi, puis du jugement du roi, et finalement de la bonté et de la fidélité du roi. De quel roi s'agit-il? Salomon d'abord, littéralement, ou un roi qui lui succéderait et qui devrait avoir ces caractères-là, mais le roi qui a manifesté ses caractères, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Et si vous lisez le psaume 2, vous voyez que nous devons craindre le Fils qui est roi des rois, qui est Seigneur des seigneurs. Il est dit baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que sa colère s'embrase sans soit peu. La colère du roi, c'est quelque chose de terrible. Et quand le Seigneur s'arrêtera, comme il est dit dans l'Apocalypse, et que les hommes le verront, ils seront terrifiés. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous. Tous ces hommes qui disaient, nous ne croirons que si nous voyons, ne se rendent pas compte que le temps le plus heureux pour eux, c'était ce temps où on devait croire sans voir. C'est le temps de la foi. Mais l'heure vient où les hommes devront croire en face de l'évidence, et quand ils verront, c'est la perdition. Quand ils le verront, ce sera la perdition. Alors, que vous puissiez être de ces bienheureux qui ont la foi, qui croient sans voir, comme l'a dit Jésus. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Car quand il faudra voir la colère de l'agneau, ce sera quelque chose de terrifiant. Et vous l'avez là au verset 2, la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Car quand le Seigneur reviendra en gloire, il ne revient pas comme le doux agneau, mais il revient comme le lion de la tribu de Juda qui vient pour juger et établir son règne de gloire. Celui qui l'irrite, pèse contre lui-même. Alors, reprenez la lecture du psaume 2, baiser le Fils. C'est-à-dire, cette soumission au Fils avant qu'il ne s'irrite. Tournez-vous vers lui avant que ne vienne le jour de la colère de Dieu. Verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Alors, est-ce que je me livre à l'emportement? Voilà comment je dois recevoir cette parole. Si je me livre à l'emportement, qu'est-ce que je suis? Je suis un insensé. C'est insensé ce que je fais. Il faut donc que le Seigneur me délivre de mon emportement. Parce que je ne veux pas demeurer un insensé. Un homme qui ne connaît pas la puissance de Dieu, qui n'est pas vraiment en relation avec Dieu. Quand on s'emporte, on a perdu notre relation avec le Seigneur et qui veut être notre paix et nous donner le calme dans nos pensées et dans nos cœurs. Est-ce que pour nous, c'est une gloire de s'abstenir des querelles? Ou bien, est-ce que nous nous faisons une gloire de nos querelles? Parce que nous savons les querelles. Les querelles nous placent dans les œuvres de la chair. Est-ce une gloire pour nous de nous abstenir des querelles? Passons au verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Le paresseux. Nous l'avons rencontré déjà plusieurs fois dans ce livre des Proverbes. Eh bien, le paresseux, c'est un homme qui trouve toujours des raisons pour ne pas faire l'ouvrage qu'on attend de lui. Il a toujours des raisons valables pour ne pas faire le travail qui lui a été confié. C'est le type même du paresseux. Alors, si je découvre en moi cette tendance, que j'ai mille raisons pour ne pas faire le travail, des excuses, toujours des excuses, eh bien, qu'est-ce que je suis? Je suis, selon l'Écriture, un paresseux.
je découvre qu'il y a en moi un fond de paresse. Alors, je veux pas rester un paresseux. Je me juge de cela. Je demande au Seigneur de me délivrer de... Ce n'est pas seulement un défaut, mais c'est un vice. On nous apprenait, quand j'étais encore aux études, eh bien, que la paresse et l'oisiveté, c'est ce qui engendre tous les vices. Hein. Alors, nous voulons nous débarrasser de cela. Vous voyez ici, le froid pour le paresseux lui paraît un obstacle assez sérieux pour ne pas labourer. Il fait froid, je ne vais pas labourer. Il pleut, je ne sèmerai pas. Alors, si vous ne labourez pas, si vous ne semez pas, d'où viendra le temps où il faut récolter, qu'est-ce que vous aurez? Rien. C'est clair. Hein? Voilà la parole qui vous enseigne dans la pratique. Mais remarquez, le paresseux trouve des excuses pour ne pas labourer, mais il voudrait récolter. Alors là, il est tout prêt à venir pour avoir quelque chose au moment de la récolte. S'il sache que s'il n'a pas travaillé, il n'aura rien. C'est clair, voilà ce que nous dit la parole. Donc, le paresseux, il aurait de l'énergie pour récolter. Et ça, on le voit toujours. Ah, l'énergie pour récolter, pour recevoir, oh là, les deux mains sont au but. Mais pour labourer, quand il faut un peu plier les cimes, il n'y a rien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y aura pour le paresseux? Non seulement il n'aura rien, mais il mendiera. Il mendiera. Le paresseux qui ne pouvait pas, qui met la main dans le plat, puisqu'il n'a pas même la force de l'amener à sa bouche pour finir, cette main, il l'attendra. Il sera un mendiant. Verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Voyez-vous, ce qui se passe au fond du cœur de l'homme, cela échappe à notre observation. Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans votre cœur. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quelles sont vos pensées? Quels sont vos desseins? Ce sont des eaux profondes. Moi, je n'y descends pas. Le Seigneur les connaît, les desseins de votre cœur. Mais si je vis avec le Seigneur, dans ces eaux profondes de mon cœur, il y a des choses excellentes, les choses que le Seigneur y a déposées. Et alors, je peux y descendre et y puiser. J'ai dans mon propre cœur des ressources. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a déposées. Il a déposé au fond de mon cœur ses précieuses ressources et je peux utiliser au moment opportun pour apporter à d'autres un réconfort. L'homme intelligent peut utiliser, puiser au moment opportun au fond de notre cœur parce que nous avons des réserves. Ces réserves que le Seigneur a bien voulu y mettre parce qu'on lui a donné notre cœur. Mais des fois, votre cœur est-il rempli? Il faut, disait Jésus, que du bon trésor de ton cœur puisse sortir des choses nouvelles et des choses vieilles. Il doit y avoir toujours un renouvellement. Bien sûr, on apportera des choses vieilles, des choses anciennes, des choses que vous savez déjà peut-être. Mais aussi, le Seigneur nous donnera de pouvoir vous apporter des choses. Vous disiez, mais j'avais jamais vu ça, j'avais jamais compris cela. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et nous avons dans notre cœur cette possibilité quand le Seigneur l'a purifié. Verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Vous les connaissez? Vous les avez entendus? Ces gens qui aiment raconter toute leur bonté, tout le bien qu'ils ont pu faire, qu'ils ont fait, toutes leurs bonnes actions, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais, alors là, ça va réconcilier nos sœurs, c'est plus une femme fidèle. C'est un homme fidèle qui le trouvera, voilà qui rétablit l'équilibre. Une femme vertueuse qui
la trouvera. Mais un homme fidèle, hein, qu'il trouvera. Donc, les hommes, nous sommes pointés du doigt. Qu'est-ce qui nous caractérise? C'est l'infidélité. L'infidélité. Un homme fidèle qui le trouvera. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Et il faut se régénérer pour être fidèle. Parce que ce qui caractérise la nature de l'homme, c'est l'infidélité. L'homme serait par nature un polygame. Alors, nous devons veiller à cela. Un homme vraiment fidèle, qui le trouvera. Fidèle dans ses relations conjugales, mais aussi, alors, fidèle dans ses rapports avec le Seigneur pour mettre en pratique la parole. Un homme fidèle, qui le trouvera. Voyez-vous, l'apôtre Paul ne s'est pas trompé quand il a dit, Marie, ce qu'il leur a dit, aimez vos femmes. Pour quelle raison? Il n'a pas dit ça, femme, aimez vos maris, parce que naturellement la femme devrait aimer, elle est faite pour aimer, devrait aimer son mari. Mais c'est à l'homme qu'il a dit, Marie, aimez vos femmes. Parce que là, il y a un danger du côté de l'homme. Nous avons dit et nous avons entendu des choses au sujet de la femme, mais nous voulons aussi accepter ce que Dieu nous dit à nous, les hommes. Nous voulons nous laisser corriger par la parole du Seigneur. Un homme fidèle, qui le trouvera, c'est aussi rare qu'une femme vertueuse. Mais le Seigneur peut mettre sur votre chemin un homme vraiment fidèle. Et c'est pourquoi nous disons aux jeunes filles, n'épouse qu'un homme qui a de l'amour pour le Seigneur. C'est l'amour pour le Seigneur, l'amour qu'un homme a pour le Seigneur, c'est la place que le Seigneur a dans le cœur d'un homme qui s'assure de sa fidélité dans la vie conjugale. Parce que autrement, nous sommes par nature des infidèles. Et alors, c'est ce qui compte pour toi. Est-ce que c'est la beauté seulement de l'homme? Est-ce que c'est la position de l'homme? Est-ce que c'est son renom? Est-ce que c'est tout cela? Bien, avec tout cela, les hommes de renom, ils sont infidèles, ils ont une maîtresse, et peut-être plusieurs. L'homme fidèle, c'est celui qui aime le Seigneur, et qui veut le suivre, et qui se laisse former et éduquer par le Seigneur. Et c'est ça. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Voilà une des béatitudes des proverbes que nous trouvons ici. Le père marchant dans la droiture est une bénédiction pour ses enfants et nous avons eu l'occasion mille fois de le constater. Si un père est fidèle, si le juste marche dans la droiture, eh bien, ses enfants bénéficient du bonheur, connaissent une de ces béatitudes qui est contenue dans le livre des Proverbes. Verset 8. Le roi, on retrouve le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Là, vous voyez ce qu'on peut attendre d'un roi, d'un gouverneur, d'un premier ministre qui vivrait dans la crainte de Dieu. Eh bien, il est dit qu'il peut dissiper tout mal par son regard. Parce que, alors là, vous voyez aussi, qui est ce roi? C'est le Seigneur. Ses yeux sont des flammes de feu. Ses yeux sont une flamme de feu. Quand le roi apparaît dans sa gloire, à Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 1er, il nous le décrit comme ayant des yeux qui sont une flamme de feu, et il dissipe tout mal par son regard. Le mal ne subsiste pas devant les yeux du roi pur. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, de sorte qu'il dissipe tout mal par son regard. Le mal ne peut pas subsister devant le roi, devant le Seigneur Dieu. Le mal ne fait pas.
Et moi, je sais aussi que je ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est une impossibilité. Vous ne pouvez pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Donc, quand vous péchez, qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez plus. C'est vrai. C'est très simple. Quand je pèse, je sais que je ne fixe plus les yeux sur Jésus. Car si j'avais les yeux sur Jésus, est-ce que c'est ça? C'est pas bon. Tu ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus. On est déçu. Alors, nous voulons avoir notre regard sur Jésus. Qu'il puisse captiver notre regard, fixant les yeux sur Jésus. Délaissant nos fardeaux et le péché, nos tristesses, tout ce qui nous enveloppe si facilement, je veux regarder à Jésus. Et c'est comme ça que je retrouve ma force. C'est comme ça que je reprends courage, parce qu'il y aurait souvent tout pour nous décourager, pour nous accuser, pour nous attrister. Regarde à Jésus et tu seras consolé. Un regard sur Jésus et tu auras la guérison. Verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? J'ai purifié mon cœur. Est-ce que moi-même qui purifie mon cœur? C'est le sang qui purifie, qui peut purifier un cœur. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Regardez le psaume 51, David après sa faute. Il confesse son péché, il dit « j'ai péché ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « moi j'ai jamais péché » ? Oh, j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit ça. Je n'ai jamais péché. Dans bien des villes d'Europe, j'ai eu des contacts avec des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais péché. Il a fallu un entretien pour que, tout à coup, ces personnes arrivent à comprendre qu'elles étaient pécheresses. Mais elles avaient une tellement bonne opinion d'elles-mêmes. Et puis, comme elles n'avaient rien fait et qui, apparemment, alerte la police, et qu'elle n'avait pas un casier judiciaire, elle pensait qu'elle n'avait pas péché. Qu'est-ce que c'est que le péché aux yeux de Dieu? Qui peut dire j'ai purifié mon cœur? Personne. Mais en Christ, on peut dire il a purifié mon cœur. Je suis purifié de mon péché. Le Seigneur a fait passer mon péché. Je ne suis plus dans ce sentiment de culpabilité. Mon Dieu ne se souvient plus de mes péchés ou de mes iniquités, et vous, vous n'avez pas à vivre dans le souvenir de vos péchés. Vous avez à vivre dans la joie du pardon du Seigneur. Nourrissez-vous de son pardon, et vous ne cesserez plus, vous ne recommencerez pas les mêmes choses. Verset 10. Deux sortes de poids, on a vu cela plusieurs fois déjà, deux sortes de mesures, des pas, sont l'un et l'autre une abomination à l'Éternel. Nous l'avons dit, nous citerons toutes ces abominations quand nous les aurons toutes vues, pour voir ce qui déplaît au Seigneur. Ce qui reste en 1985 une abomination, ce qui était au temps de Salomon une abomination, reste aujourd'hui une abomination. Toutes les mesures dans le commerce, par exemple, qui ne sont pas justes, eh bien, c'est une abomination. Si vous êtes commerçant ou si vous avez des relations publiques, vivez dans la droiture. Ayez des poids justes, ayez une balance juste dans vos affaires avec le monde. Ne dites pas, les affaires sont les affaires, les choses de Dieu sont les choses de Dieu. C'est comme ça que le monde ne croit pas à votre foi et à votre religion. Parce que ces gens-là, ils sont comme les autres. Ils sont même des fois pires que les autres. Je me souviens toujours d'avoir lu dans le livre d'André Frossard, le journaliste parisien et l'écrivain, qui est l'auteur de plusieurs livres, et qui s'est converti il y a quelques années, et qui a écrit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il était élevé en France, dans un petit patelin, où moi-même j'ai prêché quand j'avais 20 ans. Et il connaissait toutes ces personnes que moi j'ai connues aussi. Et son grand-père, le grand-père de ce journaliste, était un athée. Mais un homme droit, un homme qui avait des principes quand même. Et il voyait passer devant sa maison des frères et des sœurs chrétiens qui s'en allaient
à leur assemblée chaque mardi soir, chaque jeudi soir, à une réunion de prière, et puis le culte du dimanche matin, et puis la réunion d'études bibliques de l'après-midi. Et dans le village, ces gens-là étaient approuvés. Ces gens-là n'étaient pas loyaux, toujours, mais ils étaient des gens de prière, des gens distribuant des traités. Alors, le grand-père de Froissart avait mis un grand écriteau dans son jardin, comme nous, nous aimons mettre des grands textes bibliques dans nos demeures, et peut-être aussi près de notre maison, pour que nous ayons évangélisé. Et le grand-père de Froissart avait mis « Priez moins et ne volez plus ». Voilà son message. « Priez moins et ne volez plus ». Vous savez, le monde nous regarde. Ça ne suffit pas de dire « Nous sommes dans la bonne église, dans la bonne assemblée, etc. » Mais il faut que ça corresponde. Il faut que ça corresponde, c'est notre vie, corresponde. C'est ses leçons, ça. Hein. C'est un texte biblique, « Priez moins et ne volez plus ». Parce que la prière d'un voleur, c'est une abomination. Voilà, on va retrouver ça. Alors, des fois, Dieu emploie des athées pour vous dire la vérité. Et nous devons être capables de recevoir même une exhortation d'un athée, si ça correspond. C'est ça que je ne la recevrai pas en plein cœur. Et pourquoi est-ce que cela ne m'amènerait pas à une vraie humiliation et peut-être d'aller dire à cet homme, bien, vous savez, c'est vrai ce que vous nous avez dit. Ma conscience a été touchée, parce qu'on s'habitue à la Bible. On se gargarise avec des versets bibliques. Donc, crasse. On ne dit pas. Les proverbes, c'est quelque chose de tonique. Et nous arrivons maintenant au verset 11. L'enfant laisse désavoir par ses actions si sa conduite sera pure et droit. L'enfant. Et alors là, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? C'est qu'on peut deviner l'homme sous l'enfant. Quand je vois un enfant, quand je vois ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, je peux deviner ce qu'il sera quand il sera un homme. L'enfant. Et voyez-vous, ça nous montre l'importance que nous devons attacher aux actions des petits-enfants et pourquoi nous devons savoir les corriger. Nous devons attacher une immense importance aux actions des petits-enfants. Et le mal qu'ils font n'est pas petit comme eux. Voyez-le bien, souvenez-vous de cela. Le mal qu'un enfant fait, qu'un petit enfant fait, n'est pas petit comme ce mal qu'il fait, si tu ne le déracines pas, qu'est-ce qu'il fera? Il grandira. C'est une semence. C'est une mauvaise graine. Et ce mal qu'un enfant fait prouve qu'il y a une graine corrompue dans son cœur. Et nous devons veiller à cela, veiller à ses actions. Si Dieu ne change pas le cœur de mon enfant, j'ai tout à craindre. Ce n'est pas parce qu'il est l'enfant d'un prédicateur ou d'un ancien de votre église que ça ira bien. Vous savez ce qui est dans le cœur. Mais alors, prenez un autre exemple. Qui est-ce qui a montré ce qu'il serait alors qu'il était enfant? Oui, Samuel, par exemple. Hein, mais l'enfant de qui nous parle de qui, c'est, je ne suis pas le petit Jésus, hein, mais là, c'est petit. On pourrait dire, là, le petit Jésus, hein, Jésus, c'est ce petit, montré déjà par ses actions, ce serait sa conduite. Quand il était soumis à Marie, à Joseph, à ses parents, à Thérèse, voilà l'enfant Jésus a montré par ses actions ce serait sa conduite. Plus tard, il n'avait pas une auréole, hein. Non. Son auréole, vraiment, c'était sa conduite. C'était sa soumission comme petit enfant. Maintenant, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les appelle en éveil. Alors, si c'est l'Éternel, si c'est Dieu qui a fait l'oreille et l'œil, vous pensez que lui ne pourrait pas entendre, c'est lui qui a fait l'oreille? Vous pensez que lui ne pourrait pas voir, c'est lui qui a fait les yeux? Alors, celui qui a fait l'oreille est celui qui a fait les yeux, donc il entend et il voit. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas comme les idoles qui ont des oreilles qui n'entendent pas et des yeux qui ne voient pas. Verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Nous bénissons Dieu pour le sommeil qu'il nous donne. Il donne le sommeil. Mais c'est une autre chose de recevoir le sommeil du Seigneur et il le donne à ses bien-aimés. Il donne le sommeil à ses bien-aimés. Et puis, c'est une autre chose que aimer le sommeil. Encore un peu dormir, on va le lire un peu plus loin. Hein. Et puis, on se retourne sur sa couche. Si on n'est pas capable de se lever, parce qu'on est paresseux. Parce que c'est du paresseux qui le dit ça. Alors, si j'aime le sommeil, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, ça, qu'est-ce qui m'arrivera? Je deviendrai pauvre. C'est vrai. Mais ouvre les yeux et tu seras rassasié de faim. Ouvre les yeux, lève-toi dès le matin, fais ton travail et tu auras une bénédiction et tu ne mourras pas de faim. Verset 14. J'ai eu cette pensée lorsqu'on discutait du prix du bateau. Là, c'est-à-dire, mauvais, mauvais, dit la sœur. Et en son allant, il se félicite. Le bargain. Voilà, on convoite quelque chose, hein, on veut acheter quelque chose. Ça c'est tout à fait en Orient. Hein. Et alors, j'ai bien envie de cela. Mais voilà, mon vendeur est là, puis il me fait un prix. Puis moi, je lui dis, mais ça ne vaut pas ça. C'est mauvais, mauvais, c'est une histoire. Alors, bon, on me dira que c'est tout à fait la méthode qu'il faut employer là-bas. Mais on essaye de faire baisser absolument le prix, c'est peut-être votre affaire, vous avez toute raison, je ne sais pas. Mais on a cette tendance. Mauvais, mauvais, dit la sœur. Hein, parce qu'on veut faire descendre le prix, le plus bas possible. Puis, quand le vendeur a cédé, on part, hein. On se félicite. C'est une bonne affaire. J'ai décrié son affaire, puis après je me vante d'avoir fait une bonne affaire. Quand on réunit ses amis, puis que les amis voient ce qu'on a acheté, et qu'ils apprécient ça, on dit, oui, vous savez, j'ai fait une affaire. Mais on trouve que c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très bon, mais on l'a décrié comme tout. C'est ça. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Puis il s'en va. Et que c'est difficile, il a pu faire l'achat. Nous sommes un peu tordus. Il y a de l'or et beaucoup de perles. C'est vrai, vous pouvez trouver des choses merveilleuses, des bijoux. Et c'est ça que vous aimez, c'est ça qui vous intéresse, l'or et les perles. Il y a quelque chose de plus précieux. Les lèvres savantes sont un objet précieux. Donne-moi, Seigneur, des lèvres savantes, c'est-à-dire des lèvres où tu puisses pas placer des paroles d'intelligence, des paroles qui fassent du bien, qui valent mieux que les perles. Verset 16. Prends ton vêtement, car il a cause, prends son vêtement, car il a cautionné aussi. C'est comme si on entendait un juge hein, qui doit prononcer une sentence et du moment qu'il a cautionné, il dit, prends ton vêtement. C'est correct. Vous avez cautionné. Mais vous ne pouvez pas payer. On vous prendra votre vêtement. On vous prendra votre vêtement. Ou alors, si tu ne peux pas payer, il faudra donner des gages. Pourquoi? Pour qu'il soit bien montré qu'il n'y a qu'une loi vis-à-vis des étrangers. Vis-à-vis des étrangers. Voilà ce que vous devez recevoir de ce verset. Mais c'est toujours une mise en garde contre quoi? Contre le cautionnement. Vous voyez que ça revient, parce que justement un danger, tu risques de perdre ton vêtement à cause de ta soi-disant bonté. Verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Je voudrais vous demander de compter et de chercher combien il y a de sortes de pain dans les proverbes. Vous savez que maintenant, au Canada, on a toutes sortes de pain aussi. Hein. Il y a le pain français, il y a le pain hongrois, il y a le pain belge, il y a le pain arabe aussi. Mais il y a plusieurs pains aussi dans les proverbes. Vous vous souvenez d'avoir déjà rencontré quelques-unes de ces sortes de pains? Il y a en tout cas quatre sortes de pains dans les proverbes. Le pain de la méchanceté, je ne sais pas si vous aimez ça, c'est chapitre 4, verset 17. Il y a le pain du mystère, hein, vous vous en souvenez, de Madame la Folie, chapitre 9, verset 17, c'est toujours verset 17. Puis il y a le pain du mensonge, c'est le chapitre 20 ici, verset 17. Il y a le pain de la paresse, qu'on va trouver. Sa mention, c'est la femme vertueuse. Il est dit qu'elle, elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà quatre sortes de pain. Quel est votre pain? Allez au verset 18. Parce que le pain du mensonge, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'il met dans la bouche?